something is happening in our world. The masses of people are rising up, whether they are in Johannesburg, South Africa, Nairobi, Kenya, Accra, Ghana, New York City, Atlanta, Georgia, Jackson, Mississippi, or Memphis, Tennessee. The cry is always the same. We want to be free.
Martin Luther King, Le silence s'est enfin déchiré. Feuilleton en 5 épisodes de Sophie Lemp. Une réalisation de Michel Sidorov. 4e épisode.
Délicatement, ils m'ont soulevé, porté et installé dans une ambulance. Une sirène retentit. Mes paupières demeurent closes. Pas un son ne sort de ma bouche. Pourtant, je ne suis pas encore tout à fait mort. Je voudrais toucher mon visage. Est-ce du sang qui coule le long de ma joue? Mon corps ne m'obéit plus.
Le 4 avril 1968, Martin Luther King est à Memphis pour soutenir le mouvement des éboueurs noirs de la ville. Vers 18 heures, il sort un instant sur le balcon de la chambre qu'il occupe au Lorraine Motel. Un coup de feu retentit. Il s'écroule. Il meurt une heure plus tard à l'hôpital Saint-Joseph. Il a 39 ans.
Dieu m'a donné la force d'affronter chacune des épreuves que j'ai traversées. Grâce à lui, j'ai persévéré. Quand certains auraient voulu que j'abandonne.
Coretta.
Dès 1962, à peine rentré d'Albanie, Martin a commencé à réfléchir avec le SCLC, organisation qu'il dirige depuis 5 ans, à la prochaine campagne qu'il allait leur falloir mener.
Birmingham, la plus grande ville industrielle du sud des États-Unis, est, 100 ans après l'émancipation des Noirs, un des plus tristes symboles de la ségrégation qui perdure. Les humiliations et les violences y sont quotidiennes. La lutte est rendue encore plus difficile qu'ailleurs puisque l'Alabama a déclaré illégales les activités de la NAACP, l'Association nationale de promotion des gens de couleur.
Avant de nous lancer, nous nous sommes penchés sur ce qui avait échoué à Albany.
Ralph Abernathy.
Nous devions nous organiser. Cette fois, nous n'allions pas nous disperser.
Nous décidons de nous concentrer sur l'économie, en proposant aux Noirs de boycotter massivement les commerces du centre-ville. Je me rends une première fois à Birmingham au début de l'année 63, avec le révérend Wyatt T. Walker et mon ami de toujours, Ralph Abernathy. C'est dans la chambre 30 du Gaston Motel que le projet C, C comme confrontation, voit le jour.
Apprenons que les élections municipales avaient lieu peu de temps après. Nous avons choisi de retarder la campagne de quelques semaines. Début mars 1963, après le premier tour, deux candidats étaient toujours dans la course. En attendant le second tour, nous nous sommes réunis à New York, chez le chanteur et comédien Harry Belafonte.
Je connaissais Martin depuis les années 50. Nous étions devenus amis. Son combat était le mien. Quand il est venu me trouver pour me parler de la campagne qu'il était sur le point de mener à Birmingham, j'ai réfléchi à la meilleure façon dont je pourrais m'engager à ses côtés. Martin avait évoqué les nombreuses arrestations à venir, les cautions qu'il allait falloir payer. J'ai alors créé un comité de soutien et mobilisé mes connaissances et amis du cinéma et de la chanson pour récolter des fonds.
Le 2 avril 1963, Albert Boutwell a été élu maire de la ville. Même si sa victoire avait permis d'éliminer Bull Connor, ségrégationniste pur et dur, nous ne nous faisions pas d'illusions sur la politique qu'il allait mener.
Le mouvement débute par des sit-ins dans des comptoirs de restauration et par le boycott des commerces du centre-ville. Le 6 avril, nous organisons une marche sur l'hôtel de ville. Chaque jour ont lieu des rassemblements populaires. Nous chantons, comme les esclaves en leur temps. We shall overcome devient l'hymne du mouvement et son slogan. À la fin de chaque réunion publique, les volontaires sont de plus en plus nombreux à rejoindre notre armée non violente. Et ceux qui en possèdent acceptent de renoncer à leurs armes.
Le mouvement prenait de l'ampleur, les prisons se remplissaient. Le 10 avril, les autorités nous ont demandé de cesser toute activité tant que nous n'aurions pas obtenu l'autorisation officielle de manifester. Après de longues discussions, nous avons décidé de ne pas tenir compte de cette interdiction.
Mais très vite, les fonds sont épuisés. Nous n'avons plus les moyens de payer les cautions. Faut-il pour autant renoncer ? Le 12 avril, vendredi saint, quand je me rends au rassemblement malgré la mise en garde des autorités, je sais que je serai l'un des premiers à me faire arrêter et que je serai sans doute contraint à rester en prison. Pourtant, j'avance fièrement. Je chante avec force. Sur les trottoirs, beaucoup nous applaudissent.
Martin et moi avons été arrêtés juste avant d'arriver dans le centre-ville. Nous avons été séparés l'un de l'autre et Martin mis à l'isolement.
L'isolement. Pendant 24 heures, je n'ai le droit de contacter personne. Pas même mon avocat ou ma femme.
Le 28 mars, j'avais donné naissance à notre quatrième enfant, une petite fille que nous avions appelée Bernice. En ce début d'avril, j'étais épuisée et très inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Martin. J'ai hésité, puis fini par appeler le président Kennedy. Je n'avais pas oublié ce qu'il avait fait pour nous avant d'être élu.
Coretta parvient à joindre Robert Kennedy, puis le président lui-même. Mes conditions de détention changent immédiatement. Ma femme a accouché il y a 15 jours. Elle s'occupe seule de nos enfants, subit mes déplacements et mes emprisonnements successifs. Et pourtant, elle est là, toujours à mes côtés. Serais-je capable d'une telle abnégation ?
Grâce à l'intervention présidentielle, Martin et moi pouvions nous téléphoner. Le jour où il m'a appris qu'une déclaration remettant en cause les actions menées à Birmingham avait été signée par 8 ecclésiastiques de l'Alabama, il m'a semblé profondément meurtri.
Je me sens trahi. Je décide de répondre et commence à écrire la plus longue lettre que j'ai jamais écrite.
Dans cette lettre rédigée comme une tribune, Martin tentait d'expliquer à ses détracteurs que seules les actions directes mèneraient aux négociations. Provoquer une situation de crise économique, sociale, allait contraindre ceux qui détenaient le pouvoir à nous écouter. Dans cette lettre, Martin revenait sur les agissements de la police de Birmingham, dont les 8 responsables religieux louaient la conduite.
Lors des manifestations, des hommes noirs sont mordus jusqu'au sang par les chiens policiers. Des jeunes femmes de couleur sont insultées. Il n'y a pas de coups de feu, mais des gifles et des coups de pied. Un homme d'église peut-il cautionner de telles violences ?
La lettre était sortie clandestinement de prison. Et quelque temps après, elle avait été publiée par le New York Post.
Après sa libération sous caution le 19 avril, c'est à la jeunesse que Martin s'est adressé. Il a été entendu. On voyait de plus en plus de jeunes enfants dans les rangs des manifestants. Et en mai, plus de 2500 lycéens et étudiants ont été arrêtés.
À Montgomery, hommes et femmes se battaient pour les générations à venir. À Birmingham, les jeunes, à leur tour, descendent dans la rue. Les commerces sont désertés, les prisons pleines à craquer. Nous sommes soutenus par une grande partie de la communauté blanche de la ville, et le pays a les yeux rivés sur nous. Le 10 mai, après des discussions avec Burke Marshall, le conseiller aux droits civiques de Bob Kennedy, un accord sur la déségrégation, la promotion et l'embauche des Noirs est enfin trouvé. Notre victoire n'est pas seulement celle de Birmingham. Dès le mois de juin, John Fitzgerald Kennedy annonce une nouvelle loi sur les droits civiques. La conscience des Américains semble s'éveiller. Asha Philip Roth, fondateur du premier syndicat noir, imagine alors une marche sur Washington qui rassemblerait tous ceux qui, comme nous, se battent pour la liberté et la fraternité.
Par peur des débordements, beaucoup ont essayé de nous dissuader. Mais nous avons tenu bon. Et le 28 août 1963, plus de 250 000 personnes ont défilé entre le Washington Monument et le Lincoln Memorial. La majorité d'entre elles étaient noires, mais des blancs étaient aussi à nos côtés. Harry Belafonte, dont le comité de soutien continuait à être très actif, avait convié ses amis artistes.
Ils ont été nombreux à répondre à l'appel. Marlon Brando, Paul Newman, Josephine Baker, Bob Dylan. Quand Joan Baez a entonné « We Shall Overcome », nous avons tous chanté avec elle, saisis par une immense émotion.
Je regarde ces hommes, ces femmes et ces enfants qui parfois n'ont pas hésité à faire des centaines de kilomètres, ni à puiser dans leurs économies pour être là. Ils marchent, souriant. Ils chantent, de leur voix claire et forte.
Devant le Lincoln Monument, se succédaient chansons et discours. Martin avait préparé le sien depuis plusieurs jours. Il était le dernier à prendre la parole. Notes en main, il s'est avancé vers l'assemblée. Sa voix tremblait légèrement.
Martin était en train de discourir depuis plusieurs minutes quand soudain il a posé son texte, levé les yeux et prononcé cette phrase.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Je rêve qu'un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité.
Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
Je rêve qu'un jour,
même l'État du Mississippi,
qui étouffe sous les feux de l'injustice, qui étouffe sous les feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice.
Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère.
Nous sommes des milliers. Ici, à Washington. L'Amérique tout entière nous regarde. Toi qui as tiré sur moi. Étais-tu devant ton poste de télévision comme des millions de téléspectateurs? Nous as-tu entendu chanter? Aujourd'hui, je rêve. Et je sais que les rêves peuvent devenir réalité.
La réalité. Elle nous a durement rattrapés le 15 septembre 1963. Dans une église de Birmingham. Une explosion a tué 4 fillettes noires. Le même jour, 2 jeunes garçons noirs trouvaient la mort dans la rue. L'un tué par la police, l'autre par des jeunes blancs.
Des enfants. Je comprends que l'on fasse exploser ma maison ou celle de Ralph. Je comprends que l'on veuille nous faire disparaître, ou même que l'on s'en prenne à ceux qui nous sont chers. Mais des enfants ? Si c'est le prix à payer pour obtenir notre liberté, le jeu en vaut-il la chandelle ?
Le maire de Birmingham n'était pas présent aux obsèques. Il n'avait envoyé aucun émissaire. Nous étions abasourdis. Alors, quand le président Kennedy a accepté de nous rencontrer, nous avons repris espoir. Peut-être ses enfants n'étaient-ils pas morts pour rien.
Le président nous reçoit. Puis il reçoit les représentants des autorités de Birmingham. S'il nous avait conviés ensemble, et non les uns après les autres, les choses auraient peut-être pu commencer à changer réellement.
Kennedy faisait des droits civiques une priorité. Mais les pressions étaient fortes. Il était empêché par des tensions si vives qu'il ne parvenait pas à les apaiser.
À Washington, j'étais confiant, persuadé que la victoire de Birmingham en ferait naître bien d'autres. Aujourd'hui, je comprends que notre pays avance, mais qu'il n'est pas encore prêt. Le 22 novembre, John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Ceux qui l'ont tué sont comme ceux qui ont tué les fillettes à l'église. Ceux qui l'ont tué sont comme toi, qui viens de me tirer dessus.
Chacun se souvient où il était quand il a appris la mort de Kennedy. J'étais à Atlanta, avec Martin. Il a caressé mes cheveux et a murmuré « Cela m'arrivera aussi ».
J'ai 34 ans et je sais que je n'atteindrai pas la quarantaine. Mais tant que je serai en vie, je continuerai à me battre. En 1964, c'est à Sainte-Augustine, en Floride, que me mène la lutte. Là-bas, la ségrégation est l'une des plus dures. Inspiré par ce que nous avons obtenu à Birmingham, les Noirs se mobilisent massivement et manifestent malgré les coups, les jets de pierres, les insultes.
Le mouvement de Sainte-Augustine a aidé à convaincre le Texan Lyndon Johnson, le successeur de Kennedy, qu'il devait accélérer les choses. Le 2 juillet 1964, il a signé le Civil Rights Act, sonnant comme l'aboutissement de toutes ces années. Martin était à ses côtés.
Martin répétait qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche qui lui avait été confiée. Il était épuisé. J'avais peur que son corps lâche tout à fait. J'ai fini par le convaincre d'entrer à l'hôpital. On allait lui faire un bilan complet et il pourrait se reposer.
Depuis des années, quand la pression était trop forte, Martin était parfois cloué au lit par une forte fièvre. Puis il retrouvait rapidement la santé et reprenait le cours de sa vie. À l'automne 1964, je perçois que sa fragilité est plus profonde et qu'il va falloir davantage de temps pour qu'il récupère.
Dans ma chambre de l'hôpital d'Atlanta, j'ai le sentiment de peu à peu revenir à moi, comme si j'avais fini par me perdre. Doucement, je reprends des forces. Un matin, je viens de me réveiller, Coretta m'appelle. Elle parle vite. J'entends Oslo, décembre, Nobel. Après quelques instants, je comprends que je suis lauréat du prix Nobel de la paix. Immédiatement, une question tourne dans ma tête. Peut-on remettre à un seul homme une récompense saluant l'action de milliers d'autres ?
Martin aurait dû se réjouir, mais il ne parvenait qu'à s'inquiéter.
Alors qu'il venait de sortir de l'hôpital, Martin m'a téléphoné et demandé de venir au plus vite. Il avait reçu un courrier contenant un enregistrement. La lettre évoquait la soirée du 28 août 1963, après la marche sur Washington.
Des micros auraient été cachés dans la chambre de Martin, qui, cette nuit-là, y aurait reçu une jeune femme. L'enregistrement était confus. On entendait des bruits de verre, des éclats de voix, puis le souffle de deux personnes en train de faire l'amour. J'ai décidé de ne pas y croire. Rien ne permettait d'identifier formellement Martin. Hoover, directeur du FBI, le qualifiait de « noir le plus dangereux d'Amérique ». Il avait décidé de le faire tomber, et il était prêt à tout pour y arriver.
Malgré le soutien indéfectible de son épouse, c'est un homme meurtri qui s'est rendu à Oslo pour recevoir son prix Nobel.
Le 10 décembre 1964, tandis que je m'apprête à parler, j'ai du mal à avaler ma salive. Les larmes sont tout près. Pour la première fois, je me demande si je vais parvenir au bout de mon discours. Ce n'est pas parce que je suis impressionné par l'auditoire, mais parce que je pense à tous ceux qui devraient être là, à mes côtés, tous ceux dont les noms ne marqueront pas l'histoire. Ceux qui ont refusé de monter dans un bus, ceux qui sont allés en prison, ceux qui ont manifesté, ceux qui ont chanté, ceux qui ont été insultés, battus, assassinés. Sans le concours de chacun, rien de ce que l'on saluait ici n'aurait existé.
L'Amérique était en train de changer. Et le monde approuvait ces changements. L'adoption de la loi sur la ségrégation en était la preuve. La remise du Nobel également. Nous devions désormais obtenir une loi sur le droit de vote des Noirs. De retour d'Oslo, Martin s'est rendu à Washington pour s'entretenir à ce sujet avec le président Johnson. Si ce dernier considérait qu'en effet cette nouvelle avancée était nécessaire, il a demandé à Martin d'être patient. Le président Johnson avait besoin des voix des sudistes pour faire adopter au Congrès l'ensemble de son programme et préférait attendre avant de s'attaquer au droit de vote. Nous allions devoir mener de nouvelles actions directes. Martin était prêt à redescendre dans la rue et à retourner en prison.
T'es-tu posé cette question avant de tirer sur moi? Sais-tu ce qu'est la prison? Seul face à toi-même. Il me semble que l'ambulance s'est arrêtée. Je n'entends plus la sirène. Nous devons être arrivés à l'hôpital. Je ne m'étais pas trompé. Je ne verrai sans doute pas mes 40 ans. Mais j'aimerais pouvoir te parler encore un peu.
C'était Martin Luther King, Le silence s'est enfin déchiré, de Sophie Lemp. Quatrième épisode. Avec Hassan Timbo, Martin Luther King. Aissatou Thiam, Coretta. Modeste Nzapasara, Ralph Abernathy. Greg Germain, Harry Belafonte. Pascal Kamerbeck, la narratrice. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son et mixage, Claude Nior. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Michel Sidoroff.